C'est quelqu'un qui va nous faire du bien ce matin. C'est important de prier aussi pour son église parce qu'il est là. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ont pris sa place, mais c'est important de prier. Et on a bien fait de prier juste avant le culte pour l'épi, pour que Dieu puisse vous puissiez passer un bon culte. Et c'est pour ça que je le remercie. Il va nous apporter quelque chose de puissant, certainement, mais surtout, il va parler avec son cœur. Et c'est ça, Michel, je le connais pas beaucoup, on se connaît pas beaucoup, mais il y a une chose que j'apprécie chez lui, il n'y a pas besoin de discuter avec lui. Il y a une chose que je sais, c'est qu'il est sincère. Et ça, moi, la sincérité, s'il y a une chose qui me touche, c'est ça. Le reste, c'est pas trop important pour moi. Mais quelqu'un qui est sincère, ça touche mon cœur. Et Michel, je peux te dire que c'est quelqu'un qui a touché mon cœur.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Merci à votre pasteur Raymond et au pasteur Mathieu et Josiane et les quelques-uns que je connais. C'est avec plaisir que je viens ce matin et je salue aussi ceux que je connais moins bien. En tout cas, heureux d'être avec vous et de partager ce moment de louange, de prière, de méditation de la parole de Dieu. Et c'est toujours un honneur de visiter. Je me sens en famille. Je me sens en famille là ce matin. C'est toujours un honneur d'être parmi des frères et des sœurs et de louer et de se sentir un en Jésus-Christ. Il est notre Sauveur et notre Seigneur et les chants qu'on a chantés ce matin avec l'équipe de louanges font du bien et nous lient les uns aux autres en Jésus-Christ. Alors je vous transmets les bonnes salutations de l'Église de l'Épi, bien sûr, les frères et sœurs de l'Épi qui vous aiment et qui prient aussi pour vous. Et nous sommes ensemble sur l'Eurométropole de Strasbourg, nous prions les uns pour les autres et nous nous encourageons les uns les autres. Et il n'y a pas parmi nous ni de concurrence, ni de comparaison, mais nous sommes tous ensemble. Et chacun sa petite spécificité, sa particularité et sa différence. Et nous travaillons ensemble dans la complémentarité, ça c'est quelque chose de précieux. Et ce que nous vivons sur l'Eurométropole de Strasbourg est assez unique, même en France. Il y a beaucoup de villes qui aimeraient vivre ce que nous vivons. Et qui languissent après de la communion fraternelle, après de la sincérité, de l'honnêteté, de la transparence. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Alors, merci de prier aussi pour l'EPI. Nous avons eu, il y a quelque temps, la visite de la commission de sécurité et nous avons fait faire des analyses par rapport aux travaux qu'il faudrait réaliser. On a réalisé que les sommes sont absolument faramineuses. Et qu'il vaudrait mieux que nous quittions ce lieu pour une nouvelle construction. Donc, on est en pourparlers avec la mairie de Strasbourg. Nous avons actuellement un terrain en vue et nous nous apprêtons à faire un projet architectural, mais aussi un projet d'église. On ne voudrait pas seulement construire un lieu de culte pour notre église, mais on voudrait y intégrer d'autres églises, d'autres associations et avoir une ouverture parce que ça ne servirait à rien d'avoir un bâtiment qui fonctionne juste le dimanche. Pour nous tout seuls, on voudrait vraiment travailler dans la complémentarité avec d'autres associations. On pense à certains nombres et on est en contact avec les uns et les autres. Et on aimerait aussi arroser tout un quartier, bénir la ville, encourager et contribuer quelque part au bien vivre ensemble et au rayonnement de l'évangile de Jésus-Christ sur l'Eurométropole de Strasbourg. Alors merci de prier pour nous parce que quand je vois défiler les chiffres, ça me donne le vertige. On a une réunion cette semaine et franchement, quand les millions défilent comme ça, vous êtes malade. On n'a pas l'argent, mais on a un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Formidable. Formidable. Alors ce matin, j'ai à cœur de partager mon cœur avec vous et de partager un sujet qu'on peut intituler « Une vie fondée sur l'intégrité ». Je fais partie de ceux qui ont un peu d'âge et qui vivent un temps de transmission. Et j'ai autour de moi des jeunes pasteurs, et on m'a confié un certain nombre de pasteurs pour la formation. Et quand on a mon âge, avec maintenant 40 années de ministère, on pense bien sûr à la relève, on pense à la transmission, et souvent les jeunes pasteurs autour de moi me disent « Mais c'est quoi vraiment l'essence du ministère? C'est quoi le plus important ?» Alors on s'investit avec eux, on les accompagne pour être au plus près de la réalité du ministère. Et pour moi, quelque chose de très important, c'est de vivre une vie fondée sur l'intégrité. Pour moi, l'intégrité, c'est une qualité essentielle pour le chrétien, pour le disciple de Jésus-Christ, mais aussi pour le leader, pour le pasteur, pour le ministère. C'est un ingrédient majeur pour construire une vie solide. Alors, quelquefois, on veut aller plus loin, on veut aller plus haut, et je crois que c'est juste et c'est bien de le faire. Ce matin encore, on l'a dit, on veut avancer avec le Seigneur, on veut progresser, on veut grandir. Mais vous avez remarqué, comme moi, que quand on construit, c'est bizarre d'ailleurs, la construction, quand on construit, ça commence par un trou. Vous avez remarqué ? À côté de chez nous, à Lépy, il y a eu un immeuble qui s'est construit. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est creuser. Puis la deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des colonnes d'acier de 25-30 mètres pour supporter une charge d'un bâtiment qui accueille 600 logements. C'est impressionnant. On est impressionné. Et on s'aperçoit que pour construire de manière solide, bien, il faut des fondations, des fondements. Et si nous n'avons pas de fondations solides dans nos vies, nous ne pourrons pas construire en hauteur. Peut-être que certains parmi vous ont été dans les grandes cités, des grandes villes. Moi, j'étais aux États-Unis plusieurs fois. Et ce qui m'impressionne dans la construction des gratte-ciels, c'est les fondations. Ils ont des piliers en acier qui descendent parfois une centaine de mètres dans la terre et ils vont chercher la roche, le roc pour s'établir afin que ces grands gratte-ciels ne tombent pas, ne vacillent pas. Et vous avez remarqué aussi dans votre vie que quand vous avez de bonnes fondations, la tempête veut venir. Connaissez l'histoire du fou qui sur le sable construit sa maison et puis celui qui sur notre roc, c'est Jésus. Le rocher des siècles, c'est Jésus. Notre vie est construite sur Jésus, mais notre vie est construite aussi sur les valeurs de l'Évangile, sur les valeurs qu'incarnait Jésus. La vérité, il est le chemin, la vérité, la vie. L'humilité, Jésus est humble et doux de cœur. Et c'est en Christ que je trouve vraiment toute ma valeur. Donc un ingrédient majeur dans ma vie, c'est construire une vie solide sur l'intégrité. Pour les sportifs parmi nous, connaissez peut-être Sébastien Chabal, ça vous dit quelque chose? Le rugbyman, le barbu, on le voit de temps en temps dans les publicités, les cheveux longs. Et un jour, il affrontait avec son équipe, l'équipe des Springboks de l'Afrique du Sud. Et on l'a interrogé, on lui a dit, mais vous avez une équipe en face de vous, là, ça va pas être facile. Alors il dit, oui, c'est une équipe qui est solide sur ses bases. Et moi, je voudrais que ma vie soit solide sur mes bases. Et je voudrais vous encourager ce matin à construire une vie qui soit solide sur ses bases. Parce que tout dépend de cela. Tout dépend de cela. Sommes-nous solides sur nos bases, sur le plan personnel, mais aussi sur le plan collectif, sur le plan de l'Église? Dans le domaine du leadership, on parle souvent de la loi des 3 C. Et avant d'embaucher quelqu'un, avant d'engager quelqu'un dans un service, nous essayons de vérifier si la personne en question, le frère, la sœur en question, a ces 3 C. Premièrement, c'est le caractère. Le caractère. Deuxièmement, les compétences. Et troisièmement, les connexions. Le caractère, eh bien, c'est important que la personne soit vraiment en relation personnelle avec Jésus. Et que le caractère, vous savez, le mot caractère vient de caratine, ça veut dire marque. Marque, empreinte. Que l'empreinte de Jésus soit dans la vie de mon frère et de ma sœur. Est-ce qu'il y a cette empreinte? Deuxièmement, les compétences. C'est important d'avoir les compétences requises pour un certain service. Puis ensuite, il y a les connexions. Vous avez les groupes Connect. pour être en connexion les uns avec les autres, avec l'Église, eh bien, est-ce qu'on est connecté? Est-ce qu'on a le contact? Est-ce qu'on est en relation les uns avec les autres? On vérifie cela. Et parmi ces trois, c'est bien le plus important pour moi, c'est le caractère chrétien, le caractère de Christ. Et Dieu s'intéresse à notre développement personnel, à notre croissance personnelle, et il s'intéresse particulièrement à notre caractère. L'Évangile, c'est une vie de transformation. Le message, c'est aussi un message qui vise la transformation. La parole de Dieu, l'Évangile, la Bible, c'est un message qui vise la transformation. Ce livre n'est pas seulement là pour nous informer, mais il est là aussi pour nous transformer. Nous transformer. Et si notre vie n'est pas transformée, que pouvons-nous transmettre? Que pouvons-nous communiquer? Parce que vous le savez bien, nos vies parlent beaucoup plus que nos paroles. Et la crédibilité de l'Évangile est liée à ma propre crédibilité. Si je ne suis pas crédible en face de mes voisins, de mes collègues, de mes amis, les uns et les autres ne vont pas aller beaucoup plus loin. Donc après une quarantaine d'années de ministère, la question de l'intégrité, elle est sur ma top liste. L'intégrité, mes amis, c'est l'une des plus grandes batailles de notre vie. C'est un combat quotidien. Alors, je ne suis pas là en train de dire « Alléluia » toujours, mais je suis là avec mes failles, avec mes manques, avec mes fissures, avec mes besoins, avec mes frustrations, et je dis « Seigneur, je veux être intègre. » C'est l'une des plus grandes batailles. Job, chapitre 1, verset 1. « Il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Job, chapitre 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Un peu plus loin, Job au chapitre 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu, se détourne du mal. » Et il ajoute, « Il persévère dans son intégrité. » Et au chapitre 2, verset 9, sa femme lui dit, « Tu persévères dans ton intégrité. » Intégrité. Après, elle rajoute des choses, maudit Dieu et meurt, mais elle fait quand même remarquer, tu persévères dans ton être. Quand une femme dit cela de son mari, vous pouvez la croire. Vous pouvez la croire. Alors, j'ai regardé un petit peu sur Internet, vous savez qu'il y a parfois des dialogues. Et sur yahoo.fr, questions et réponses aux internautes. Et puis, il y a une question qui a été posée. Qu'est-ce que pour vous l'intégrité? Ça m'intéresse de savoir ce que les gens autour de nous pensent de ces sujets. Qu'est-ce que pour vous l'intégrité? Qu'est-ce que être intègre pour vous? Alors, quelqu'un a répondu, c'est ne jamais trahir. Quelqu'un d'autre a répondu, c'est être irréprochable. Quelqu'un d'autre dira, c'est avoir des valeurs morales et ne pas transiger avec soi-même et ne pas choisir la solution de facilité. C'est intéressant, toutes ces définitions. Quelqu'un d'autre a dit, l'intégrité, c'est ne jamais revenir sur ses paroles. Quelqu'un d'autre, c'est tenir ses promesses. Puis quelqu'un a mis en majuscule, c'est le plus beau mot du dictionnaire. C'est magnifique, ça. Le plus beau mot du dictionnaire. Alors le dictionnaire, le Larousse par exemple, dira « Être intègre, c'est la qualité d'une personne qui marche avec droiture. » Ça me parle, moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me parle. Et le mot biblique « tamim » veut dire « être entier », veut dire « être complet, intact, solide, sans défaut, sans tâche ». Ça vous fait penser à quelqu'un? Quelqu'un qui était sans défaut et sans tâche? Il n'y en a eu qu'un, c'est Jésus. Mais il est notre modèle, il est notre référence, il est notre exemple. Sans reproche, sincère, saint, S-A-I-N. Et la Bible nous parle de certains hommes et femmes qui étaient intègres. Le contraire d'intègre, c'est dissimulation, hypocrisie, duplicité. Vous savez, dans l'Ancien Testament, souvent ce terme qui revient, souvent, avoir un cœur tout entier à l'Éternel. C'est ça, un cœur tout entier. Un cœur qui ne soit pas partagé, mais qui soit entier pour l'Éternel. Bien, quelques exemples, quand tu termines un travail et que personne ne te voit, personne ne te regarde, mais tu vas jusqu'au bout, tu es intègre. Quand tu tiens tes promesses, tu es intègre. Quand ce que tu fais est en accord avec ce que tu dis et ce que tu penses et ce que tu crois, tu es intègre. Dieu est intègre. Jésus était intègre. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Deutéronome 6, 4 dira, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. » C'est le seul Dieu. Mais en même temps, quand le texte nous dit « il est un », ça veut dire qu'il est entier, il est cohérent, il est solide, il est complet, il est constant. Et c'est ce que je voudrais être, je voudrais ressembler au Seigneur. Nous voulons ressembler au Seigneur. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui va inspirer la confiance. C'est quelqu'un qui est digne de foi. Avant d'être pasteur, j'étais technico-commercial, un représentant. Et dans les formations de représentants, on vous apprend quelque chose. La loi des 3-20. Les 20 premiers centimètres, les 20 premières paroles et les 20 premières secondes. Parce que vous n'avez jamais une deuxième chance de créer une première impression. Et la sincérité, vous ne pouvez pas la fabriquer. Impossible. Vous ne pouvez pas la fabriquer. Donc, les 20 premières paroles, les 20 premiers mots. Et la première impression que vous avez de quelqu'un, souvent, très souvent, c'est la bonne. Quand vous arrivez chez les gens, tant que représentant, j'arrivais chez les gens, j'étais dans les milieux agricoles, j'étais dans les milieux viticoles, je vendais des produits phytosanitaires. À l'époque, on ne savait pas trop l'impact. Aujourd'hui, eh bien, on le sait. Hein? On a dégradé la terre et on fait attention aujourd'hui, heureusement. Mais à l'époque, j'arrivais et les premières secondes étaient décisives. Et on savait, eux savaient à qui ils avaient affaire et moi je savais à qui j'avais affaire. La loi des vins. Donc c'est une qualité essentielle. Noé était intègre, c'est un homme juste et intègre parmi les contemporains, parmi ses contemporains, il marchait avec Dieu. Abraham était intègre. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. David était un homme intègre. David conduit le peuple avec un cœur intègre. Psaume 78. Déborah, juge, chapitre 4, avait un cœur intègre. Elle faisait preuve de discernement et de loyauté. Puis juge, au chapitre 5, elle dit « Mon cœur est avec les chefs. Mon cœur est avec les chefs. » Une loyauté, une sincérité, un engagement de sa part tout à fait exemplaire. Esther, la reine Esther était intègre. Elle dira « Si je dois périr, je périrai. » Elle est restée fidèle à son appel jusqu'au bout. Elle n'a pas choisi la solution de facilité. Quand c'est devenu chaud. C'est une tentation par laquelle nous passons tous. Hein. Quelqu'un d'intègre, c'est donc quelqu'un qui ne dévie pas de sa trajectoire en face des difficultés et qui honore le Seigneur. L'autre jour, je suis rentré d'un magasin, puis j'ai regardé la facture, puis je me suis aperçu que la caissière s'était trompée. En sa faveur, enfin... C'est moi qui étais gagnant. Et alors, vous avez 3 secondes, vous dites, qu'est-ce qui se passe là? Oula! Et il ne faut pas plus... Quand on est intègre, c'est comme ça. Hein, je vous donne juste un exemple. Il faut que je retourne. Elle s'est trompée. Ce n'était pas grand-chose, 5 euros. Mais je suis allé, madame, vous êtes trompée. Je vous dois 5 euros. Oh, mais monsieur, oh là! Personne ne fait ça aujourd'hui. On est d'accord. Mais le chrétien, il est intègre, il honore son Seigneur et son Sauveur, il honore l'Évangile, les valeurs de l'Évangile, et il va rendre ce qui n'est pas à lui. Alléluia. Et Dieu a béni. Oui, c'est important parce que tout ce que vous avez construit pendant des années peut s'écrouler en un instant à cause d'un comportement malhonnête, à cause d'une parole blessante, à cause d'un comportement immoral. Alors bien sûr, dans la repentance et dans la demande de pardon, le Seigneur peut reconstruire, mais c'est difficile de retrouver l'impact qu'on a eu avant. C'est difficile, vous le savez, c'est important. Richard Toupin, un chanteur canadien, dira « celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé ». Je crois que Dieu relève, alléluia, heureusement. Et parfois, ceux qui se relèvent sont devenus beaucoup plus forts parce qu'ils sont devenus attentifs à ce point de fragilité et de vulnérabilité qui les a atteints. En génie civil, dans la construction, on parlera d'intégrité des matériaux. On parle du pont de Gênes là ces jours-ci, vous savez le pont de Gênes en Italie qui s'est écroulé. Et quand on a fait l'analyse un petit peu de cet ouvrage, on s'est aperçu que certaines parties manquaient d'intégrité. On peut se cacher, on peut se protéger, on peut construire des murs entre nous pour ne pas que les gens s'approchent, mais je pense que le chrétien est destiné à s'ouvrir. Et j'ai beaucoup aimé ce moment-là, de cette minute où vous vous saluez les uns les autres. Et gardez ça. On sent dans votre assemblée cette chaleur fraternelle. Et ça, c'est le travail du ministère pastoral, des leaders qui s'investissent dans ce sens. Et donc, cela découle sur l'assemblée. C'est important. Cette ouverture, cette transparence, ce côté fraternel. Parce que nous avons tous des fissures, nous avons tous des failles, des trous, des manques, et qui peuvent justement être à l'origine de cette construction, se protéger pour ne plus avoir mal, pour ne pas être blessé. Moi-même, j'ai vécu le rejet et j'ai vécu des moments difficiles. Moi, je suis né en Allemagne, ma maman était allemande, une blonde, et mon père était noir américain. Et donc, mon père était GI, il avait effectué, à cette époque-là, il effectuait son service militaire en Allemagne. Et comme beaucoup d'enfants nés à cette période, juste après la guerre, il y en a à peu près 7000, on les appelle les brownies, les bruns. Ils sont pas vraiment noirs, ils sont pas vraiment blancs. Et donc, je n'ai jamais connu mon père, je sais pas qui c'est. Et je me suis converti à l'âge de 14 ans. Et dans cette famille où je suis né, nous étions 5 frères et sœurs de la même maman et de 4 papas différents. Et donc, on est à ce moment-là, dans l'adolescence, à la recherche de son identité. Mais qui est-ce que je suis? Pourquoi mon père m'a abandonné? Pourquoi? Et alors, j'ai été adopté par une famille qui a vécu en France. C'est mon oncle, j'ai été adopté. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi est-ce que mon père ne m'a pas reconnu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu? Pourquoi? Et quand je me suis converti à l'âge de 14 ans, la chose la plus fantastique, la raison pour laquelle je suis chrétien aujourd'hui, c'est parce que j'ai découvert un Père céleste dans le ciel. J'avais besoin de savoir que dans le ciel, il y a un Père céleste qui m'aime, qui a tout prévu pour moi, et dans les méandres de la vie, et les cassures, et les fissures, et les manques, et les trous affectifs, et tout cela, il est là, il est en contrôle. Et ce qui était la chose la plus difficile à vivre peut devenir la plus grande bénédiction dans ta vie. Je me vois encore en Martinique en train de parler du pardon de Dieu. Vous savez que dans les îles, parfois, il y a des soucis. Il y a aussi des enfants. Et je me vois dans ces groupes de jeunes où beaucoup de jeunes sont dans des familles où ils ont 2, 3, 4 papas différents. Enfin, c'est... Alors, je me vois en Martinique, je me dis, mais Seigneur, c'est pour ça que tu as permis que je vive tout cela pour pouvoir parler à tous ces auditoires. qui vivent des choses difficiles et douloureuses. Alors on ne peut pas toujours dire « Ah, la victoire, la victoire !» Oui, nous croyons à la victoire, nous proclamons la victoire en Jésus-Christ. Mais la victoire, elle passe par une reconnaissance de mon manque, de mon trou ici, de ces choses difficiles à vivre. Et je dis, Seigneur, voilà, je suis qui je suis. Et en Jésus-Christ, je suis qui je suis. Je suis aimé de Dieu. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis justifié. Il me donne son innocence. Son sang a coulé pour moi. Il m'a intégré dans la grande famille des enfants de Dieu. C'est ça, ma solidité, ma sécurité et mon assurance. Alors, je n'ai pas besoin de faire semblant, je n'ai pas besoin de me comparer à qui que ce soit. Je peux être sincère. Je peux être sincère. Alors, il y a quelques années, je pars régulièrement, chaque année, je vais aux États-Unis pour l'organisation du sommet mondial du leadership qu'on organise à l'EPI. C'est une conférence pour des responsables. Et vous aurez aussi l'invitation pour cette année. Donc, vous êtes engagé dans un service, quel qu'il soit. Ce sommet, c'est pour vous. C'est une conférence pour les responsables. Et chaque année, j'allais aux États-Unis. Et quand j'allais aux États-Unis, il y avait quelque chose là. Ça remuait à l'intérieur. Et je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe là en moi? C'est quoi? J'avais comme une boule. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vécu le temps là-bas, pour la conférence, avant de la reproduire ici, tant bien que mal. Mais à un moment donné, je suis retourné, c'était il y a 2 ou 3 ans, je suis retourné aux États-Unis et ça me prend là, dans l'avion. Et quand je suis sur place, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et puis une nuit, je me lève, je me réveille, je suis devant Dieu. Et je commence à pleurer pendant 1 heure. Et c'est comme si je me vidais intérieurement. C'est comme une délivrance, on va dire, une délivrance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais enfoui en moi tout ce rejet, ce parcours difficile et douloureux. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai pardonné à mon père, j'ai pardonné à ma mère. Seigneur, c'est de l'histoire ancienne. Ça y est, je suis né de nouveau, tu m'as affranchi, tu as fait tant de choses dans ma vie. Non, 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 c'était pas tout à fait terminé. Il y a tout ce vécu émotionnel. C'est un peu comme une cocotte minute. Vous voyez, qui est en train de... Alors, je l'explique avec mes mots pour qu'on comprenne bien. Le psycho pourra mieux vous dire ça que moi. Et j'en ai parlé plus tard avec mon ami Denis Morissette, qui est pasteur et psycho en même temps. Ça, c'est un grand avantage. Alors, il me dit, Michel, ça s'appelle la catharsis. Je dis, ah, catharsis. Alors, j'ai cherché. Alors, pour faire simple et court, c'est ce qu'a vécu Joseph. Vous vous rappelez de l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse, vers la fin de la Genèse, les frères arrivent et pendant 20 ans, il était loin de la maison, rejeté par ses frères, loin de la maison familiale, loin de son pays. Il a vécu des choses difficiles. Il a été mis en prison injustement. Il a souffert. Et au moment où les frères arrivent, il vit quelque chose de très fort. Tout ça, ça sort. Ça s'appelle la catharsis. Et le texte biblique nous dit que toute la maison de Pharaon l'a entendu. Il n'a pas juste versé une petite larme. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a libéré d'un poids. Et ça peut être peut-être un encouragement pour quelqu'un ce matin. Tu as vécu des choses difficiles, des choses douloureuses. Et bien que tu sois dans cet esprit de dire, oui Seigneur, je veux être vainqueur, oui je veux être victorieux, oui Seigneur, je veux progresser, Seigneur tu vois, bien il y a ce travail intérieur du Saint-Esprit et que seul le Saint-Esprit soit capable de faire. Alors je voudrais t'encourager à le laisser agir dans ton cœur et dans ta vie intérieure. Si nous nous préoccupons de la qualité de notre vie chrétienne, le Seigneur va se préoccuper de l'étendue de notre vie chrétienne. Si tu te préoccupes de la profondeur de ton service, de ton ministère, le Seigneur va se préoccuper, lui, il se prend en charge l'étendue et la largeur de ton ministère. Dieu s'occupe du rayonnement de ta vie. Si nous nous préoccupons de la qualité de notre ministère, lui, il s'occupe de l'étendue. Nous avons tous dans notre vie, dans notre parcours, des moments difficiles. Alors, je ne sais pas si c'est 11h28 déjà, c'est ça ? C'est ça ? Je suis censé m'arrêter à... Je suis soumis, hein. Alors, nous avons tous des moments difficiles dans notre vie, des journées difficiles. L'intégrité pour moi, c'est de rentrer le soir et lorsque je suis dans ma salle de bain, de regarder le miroir et de dire « Aujourd'hui, c'était difficile, mais j'ai tenu le cap. Je t'ai glorifié, Seigneur. J'ai pas cédé à la facilité, j'ai pas cédé, je t'ai glorifié. Merci de m'avoir donné la force de rester intègre. » Alors l'intégrité, ce n'est pas l'intégrisme, hein ? On est bien d'accord. L'intégriste, lui, il pense que tout le monde doit penser comme lui. Non, justement, l'intégrité, c'est d'être ouvert, c'est d'être transparent et savoir se laisser remettre en question. David était un homme intègre. Et dans le psaume 139, il dira « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur et éprouve-moi. Connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Il savait se remettre en cause, il savait se remettre en question. Alors peut-être pour conclure, quatre éléments fondamentaux à mon avis qui composent, quatre ingrédients qui composent l'intégrité, étant bien entendu que notre vie est fondée sur Jésus. Hein, on est bien d'accord, il est le rocher. Mais dans cette personne du Christ, il y a toutes les valeurs, il incarne cette notion d'intégrité. Il y a l'authenticité. Jésus était parfaitement authentique. Il y a la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il y a l'honnêteté et il y a la crédibilité. Rapidement, l'authenticité, c'est être authentique. C'est ce qui est conforme à la réalité. Je ne dis pas autre chose que ce que je suis, ce que je crois, ce que je vis. Je ne veux pas en imposer aux autres. Est-ce que je suis connu pour qui je suis réellement ? Quelle image est-ce que je donne de moi-même ? Une personne authentique n'a pas de masque, elle n'est pas hypocrite, elle est sincère. Vous savez d'où vient le mot sincère ? Sincere. À l'époque, en Italie, on vendait des tableaux et on essayait de cacher parfois les défauts. On y mettait un peu de cire ou parfois sur les marbres pour cacher les fissures. On mettait un peu de cire et l'acheteur, avant d'acheter, il prenait soit son tableau, prenait cette pièce de marbre, la mettait au soleil et quand ça fondait, on voyait la fissure. Le soleil de justice est au milieu de nous ce matin. Laissons-nous juste visiter par ce soleil. Et s'il y a des fissures, lui, il saura en prendre soin et les guérir proprement. Dans l'Ancien Testament, les leaders spirituels ont mis du plâtre sur les failles et sur les fissures. Mais c'est un mauvais calcul, parce que ce n'est que cacher de la misère. Nous voulons être au contraire connus comme des chrétiens vrais, des chrétiens authentiques. Faites-vous peut-être des choses en cachette ? Avons-nous des choses que nous aurions honte de montrer ? Bien, soyons sincère. Deuxièmement, la vérité, être vrai, parler vrai. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. En alsacien, on dit « Manne Wort », un homme, une parole. Hein? La Bible dit « Que votre oui soit oui et que votre non soit non ». Jacques chapitre 5, verset 12. Et je crois que c'est souvent la peur qui nous fait parfois dire des bêtises, des choses qui ne sont pas justes. Est-ce que je vis dans le mensonge ? L'autre jour, une dame est arrivée au culte à l'épi. J'étais désolé pour elle. Et à la fin du culte, elle va dans tous les sens, elle regarde là où elle était assise. Alors je lui dis, madame, vous avez perdu quelque chose, vous cherchez quelque chose. Et j'ai perdu les clés de ma voiture, je suis venu, mon mari ne sait pas que je suis au culte ce matin. Wow. Voyez le témoignage ? Quel témoignage, hein ? Être vrai, vivre dans la vérité. Et puis, l'honnêteté, être honnête dans nos intentions, dans nos motivations, dans nos aspirations. Une personne honnête ne triche pas, ne trompe pas. Est-ce que je suis sérieux à mon lieu de travail ? Est-ce que je travaille avec excellence ? Comme pour le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui dira, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, faites-le bien, comme pour le Seigneur. Posons-nous la question, est-ce que je suis honnête avec moi-même ? Est-ce que je suis honnête avec les autres ? Est-ce que je suis honnête avec Dieu ? Puis la question de la crédibilité, est-ce que je suis crédible dans ce que je fais ? Est-ce que je suis correct ? Est-ce que je suis réglo dans mes déclarations ? Est-ce que je pirate le travail d'un autre ? Est-ce que je paye mes logiciels ? Ben, allons jusque-là. C'est important. C'est important. Est-ce que je règle mes dettes ? Alors, être intègre, ça veut pas dire être parfait. On est bien d'accord. Mais ça veut dire être en route, vivre dans le progrès. Tous ceux qui ont marché dans l'intégrité, dans la Bible, vous l'aurez noté, on a dans cette phrase, après le mot intègre, ils marchaient avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont en marche. Je crois que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit en marche. C'est qu'on soit en route. Parce que quand on dit en marche aujourd'hui, qu'on soit en route. On soit en route. Être intègre, pour moi, c'est prendre sa vie chrétienne au sérieux. C'est prendre sa croissance au sérieux. Alors, on ne sera pas toujours dans les grandes déclarations, mais notre vie va parler. Notre vie va parler. C'est un choix de tous les jours. C'est une décision quotidienne. Et ma prière, c'est celle-ci, Seigneur, aide-moi à prêcher ce que je vis et à vivre ce que je prêche. Amen. Seigneur, moi je te remercie pour mes chers frères et sœurs. Je te remercie pour l'Église ECP. Je te remercie pour la sincérité qui se dégage de l'Église, pour le sérieux, pour cette chaleur fraternelle, le désir de faire bien. Oh Seigneur, je te bénis pour mes frères et sœurs. Je te prie qu'ensemble, nous soyons conscients de l'impact dans un monde tellement bouleversé aujourd'hui, tellement difficile. Nous voulons être ces chrétiens, ces leaders, ces responsables, ces églises qui manifestent l'intégrité, qui soient prises au sérieux. Bénis, Seigneur, le témoignage de ton Église ici, dans ce quartier, ici à Oswald. Bénis mes frères et sœurs. Fais leur grâce, Seigneur. Accorde-leur de vivre ce que tu as prévu pour eux. Merci, Seigneur, pour les leaders. Merci pour tous ceux qui sont engagés. Merci pour mes chers frères et sœurs. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.